Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Accouche. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP. Extend ses jambes vers le feu de la cheminée qui crépite. À ses côtés se trouve Toine, son voisin. Gustave aux épaules.
L'année n'a pas été bonne. Tu le sais bien, toi-même, le biais pourri par la pluie. Les pommes de terre n'ont rien donné. Je sais. L'année dernière, c'était la même chose. Mais moi, j'ai grand besoin d'argent. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas à te donner. Alors je reprends mon lopin de terre. Ce ne serait pas juste. Je t'ai déjà donné une bonne partie de son prix. Et puis, j'ai planté des abricotiers.
La porte de la pièce s'ouvre. Les deux hommes se retournent pour voir qui vient. C'est une jeune fille d'à peu près 18 ans. Elle est grande, mince, les cheveux blonds mi-longs. Elle a un charmant visage. Elle porte une blouse en coton bleu.
C'est Bernadette,
dit Gustave. La fille s'approche d'eux. Le repas est prêt.
Bien, ma fille, nous allons venir.
Et elle se retire. Gustave a vu que Thomas a bien redévisagé sa fille. Thomas dit,
« Belle fille, elle a quel âge ? 18 ans. Celui qui l'aura fera une belle affaire. Je n'en doute pas, ce serait aussi une solution pour régler nos affaires. Ça te dirait ? »
dit le père.
« Oui, ma foi, je ne suis pas contre. »
À 21h, Thomas s'en retourne à la ferme tout guilleret. C'est un homme qui a passé la cinquantaine. Il est grand, gros, un visage plutôt laid, et ses grosses moustaches n'arrangent pas les choses. Sa ferme est à 500 mètres de celle de Gustave. C'est une grande bâtisse toute délabrée où l'habitation pour les hommes ne se différencie guère de celle des bêtes. On rentre directement dans la pièce commune qui sert aussi de cuisine. Au milieu de la pièce, une grande table de bois avec deux bancs, un buffet de bois 1950, évier de pierre, cuisinière à charbon et escalier qui monte aux chambres. Les escaliers sont en bois non ciré, mais lavés lorsque l'on y pense. Et lavés à grande eau. En haut, il y a deux chambres, celle de son fils et la sienne. Là aussi, le parquet n'est pas ciré. Et l'on voit entre les lamelles la pièce d'en bas. Les meubles des chambres sont 1930. Pas de chauffage, mais un gros édredon. Rouge dans la chambre de Toine et bleu dans celle de son fils. Toute la maison est poussiéreuse, sans une odeur de pipi de chat, d'humidité, de crotte de poule, car les poules, elles aussi, viennent dans la pièce commune. Toine, en entrant, trouve près du poêle son fils. Il s'approche de lui.
Qu'est-ce que tu fais là?
Tu vois, je me chauffe. C'est l'automne et le temps est humide. Tu t'es arrangé avec Gustave.
Le père va chercher une chaise qui se trouve près de la table pour s'asseoir à côté de son fils.
Et
il te paye?
Non.
Alors?
Il me donne pour solde ce qui me doit sa fille.
Ça fait une belle jambe.
Sois pas jaloux.
Qu'est-ce que tu vas en faire, toi, de cette fille?
Elle m'empêchera d'aller tous les mois en ville.
Et moi, alors? Le père hausse les épaules.
J'ai toujours tout partagé avec toi. Elle en a suffisamment pour deux.
Elle est bien, cette fille?
C'est Bernadette. Celle qui a 18 ans, ça te va?
Ma foi, père, vous avez peut-être fait une bonne affaire. Le père se lève et dit:
je monte me coucher.
Et il se dirige vers les escaliers. Cette nouvelle a excité le fils. Il n'a plus sommeil. Il bande. Alors il met son sec entre ses jambes et serre. C'est un grand gaillard de 22 ans, mince, les traits du visage assez fins, avec une petite moustache brune. Ses yeux noisettes brillent comme deux pépites. Père Gustave, le lendemain matin, en prenant la soupe avant d'aller travailler, a dit à sa fille que le père Toine lui avait demandé sa main. Il est plus vieux que vous, père.
Peut-être bien, mais il a du bien. Et puis, ça arrange mes affaires. Il faut que tu te maries avec lui. Ce n'est pas un mauvais homme.
Mais père, le père tape du poing sur la table.
Tu te marieras avec lui ou je te mets à la porte sans un sou.
Mais
réfléchis ou je te mets à la porte. Donne-moi ta réponse ce soir.
Durant toute la journée, Berthe, tout en faisant ses travaux, réfléchit. Elle vit seule avec son père. Sa mère est morte il y a un an, crise cardiaque. Elle se dit que si son père la met à la porte, elle ne saura pas où aller. Sans argent, seule. Elle n'a jamais travaillé à l'extérieur et n'a pas de diplôme. Alors, que faire? Se marier avec un vieil homme, sale, brutal, qui a un fils plus vieux qu'elle? Oui, mais... elle aura le gîte et le couvert, et c'est le minimum vital. Alors, le soir, au retour du père, tristement, elle dit oui. Le lendemain matin, Gustave prévient Toine qu'il peut commencer à faire sa cour à sa fille. C'est ce qu'il essaye de faire. Faire sa cour, pour lui, c'est venir tous les soirs à la veillée. Il vient habiller le mieux possible, va s'asseoir à côté de Gustave qui est auprès du feu, et ils fument la pipe tous les deux. La fille se met à côté de son père avec son nécessaire à coudre. Ils passent des heures sans trop se parler. Quelquefois, Gustave dit une phrase pour l'avenir.
« Nous pourrions peut-être nous marier en janvier. »
Et le père de lui répondre.
« Oui, pourquoi pas ?»
Bernadette, de temps en temps, regarde son fiancé. Elle le trouve plus vieux que son père et pas très beau. Elle se dit, je quitte un père pour en retrouver un autre. Et puis, sans savoir comment le jour du mariage est arrivé, ce jour-là, il gèle fort, avec de la bise et le ciel est gris. Bernadette s'est retrouvée dans la robe de mariée de sa mère, qui est légèrement jaunie et sans la naphtaline. Elle a les larmes aux yeux.
Mes chères sœurs, mes chers frères, nous voici réunis ici sous le regard de Dieu afin d'unir dans le Saint-Sacrement du mariage cet homme et cette femme.
La cérémonie religieuse s'est faite dans la petite église du village. Les témoins du marié, ceux de la mariée. Le marié n'a qu'une famille, que son fils. La mariée a son père et une vieille tante sourde. Le repas de noces, c'est Bernadette qui l'a préparé la veille. Après le repas qui s'est passé presque en silence, où chacun cherchait à vider son assiette. À 23h, le marié et la mariée ont dit au revoir et sont partis retrouver leur ferme. Le fils est resté avec les invités. Mais il a dit à son père,
elle est bien, très bien.
Arrivé à la ferme, il l'a conduit à sa chambre. La première des choses qu'elle voit, c'est qu'au pied du lit se trouvent trois bouteilles vides. Elle sait ce qui allait se passer. La vie des bêtes, le cinéma, les livres le lui ont appris. Toine, à moitié ivre, le ventre trop plein, s'assoit sur le lit. Elle lui dit de s'approcher. Elle s'approche. Et il la déshabille. ses mains rudes touche sa peau douce et fine, n'en croit pas ses yeux ni ses mains. Bernadette a les yeux fermés et tremble de dégoût.
Allonge-toi.
Elle ouvre les yeux, apeurée, et s'allonge sur le lit. Il se couche tout habillé sur elle. Le plaque contre elle. La fatigue, l'alcool, l'endort. Passer toute la nuit avec cet homme plaqué contre elle, qui a la laine qui empeste l'alcool. Le lendemain matin, elle se réveille en sursaut. Elle est secouée par Toine.
Allons, debout. Il faut que tu prépares la soupe. Et ensuite, tu sortiras les poules et donneras à manger aux cochons et aux lapins.
Il se lève et sort de la chambre. Toine et son fils mettent un verre de vin rouge dans leur soupe. Bernadette ne prend rien ce matin. Elle a la gorge serrée. Après avoir fini leur soupe, les deux hommes sortent. La première journée de Bernadette chez son mari se passe comme une journée chez son père, même vite ferme. Elle a guère vu les deux hommes, à part à midi, pour le repas principal. Et le soir, pour le café au lait. Pendant que Bernadette dessert la table, le fils dit au père,
« Ce soir, c'est mon tour. »
« Non. »
« Pourquoi ?»«
Parce qu'elle est encore vierge. »
Et alors, je n'y suis pour rien s'il n'a rien fait hier. Je la prends ce soir.
Et le fils se lève de table. Père tape du poing sur la table.
Non, tu verras, avec moi elle ne sera plus vierge longtemps. Je vais te la prendre tout de suite.
Je te l'interdis.
Le fils lui jette un regard de défi. Fait signe à son père en lui montrant la fille.
J'y vais.
Le père se lève d'un coup. Le fils court vers Bernadette qui se trouve vers l'évier. Le père le rattrape. Retourne et le fait tomber à terre. Se couche sur lui. Bernadette, effrayée, n'ose pas bouger. Le fils d'un coup de rein se dégage et fonce sur Bernadette. Fait tomber à terre. Plaque contre elle. Surprise, apeurée, elle essaye de se défendre. Le père se rue sur son fils. Ils veulent sortir. Fils, d'un coup de poing, se dégage du père qui tombe à la renverse et se cogne à l'évier. Père sonné. Bernadette, sous le fils, essaye de se débattre. Et il est trop fort. Il lui soulève sa robe. Il enlève son slip, se déculotte. elle apprend. Le viol de sa belle-mère a été rapide. Elle n'a rien senti, aucun plaisir. Car elle a cherché à se débattre. Le père a retrouvé ses esprits, mais c'était fini. Il a vu le sang qui coulait le long des cuisses. Il s'est levé et allé vers son fils.
Allô ?
Le fils s'est levé. Culotté. M'en veux ?
C'était pour moi la première fois.
Et le père sort de la pièce. Fils aussi. La dette, seule, allongée à terre, les jambes écartées, meurtrie, pleure. Puis, elle se lève. Au lavabo pour se laver. Retrouve son mari dans sa chambre, au lit, qui boit à la bouteille une gorgée de vin, puis pose la bouteille à terre.
Je dois te coucher.
Et cette fois, c'est lui qui l'a eu. Père et le fils se sont réconciliés. Le père lui a dit
« Non, tu m'aimes pas nous fâcher pour une femme. »
En fait, le père aime bien son fils. C'est la seule personne qui l'aime vraiment. Bernadette est traitée exactement comme une servante. Les deux hommes ne lui parlent que pour lui donner des ordres et ils se sont mis d'accord pour que la fille leur appartienne à tous les deux. Un jour, en visite chez son père, elle a essayé de lui parler de son état. Il lui a dit
« Je ne veux rien savoir. Tu appartiens à ton mari et c'est tout. Il fait ce qu'il veut chez lui. »
Ce qui la répugne le plus, c'est que son mari boit beaucoup et même au lit. Il emporte le vin dans le lit. Elle préfère même mieux aller dans la chambre du fils. Une nuit sur deux, lui au moins, il ne boit pas au lit. Quelquefois, l'alcool rend son mari coléreux et il la boit pour un oui ou un non. On trouve souvent avec un œil borgne. Qu'est-ce qui fait résister Bernadette ? Bernadette a tous ses traitements. À quoi pense-t-elle ? Elle travaille beaucoup, mais son travail est manuel, ce qui fait qu'elle peut réfléchir en travaillant. Alors, qu'est-ce qui fait tenir le coup à cette jeune personne ? C'est qu'au fond d'elle-même est né quelque chose qu'elle ne connaissait pas, une colère sombre, une haine immense, un besoin de s'affirmer par la vengeance. Mais elle veut se venger
d'une façon froide, implacable, définitive.
Soumise, Bernadette ?
Non. Comme la bouilloire qui bouge sur le feu. Au moment, elle regarde, écoute.
Mais pourquoi ne part-elle pas?
Partir? Pour où? La campagne à perte de vue, sans sous. Demander secours? À qui?
Son père fait la sourde oreille. Les autres voisins sont loin. Et dans le pays, toutes les femmes sont soumises.
Au père, frère, mari, beau-frère. C'est normal. Et puis, personne ne doit s'occuper de ce qui se passe chez le voisin.
Pour le moment, elle est la servante, la pute. Pour survivre, elle doit le rester encore quelque temps.
Un jour, Bernadette va au village, seule, pour prendre chez la mercerie quelques fils à coudre. Elle a un œil au bord noir.
Sortant de la mercerie, elle tombe sur l'instituteur du village, Monsieur Louis. « Excusez-moi, » dit-il, « ce n'est rien. Mais...
vous êtes Bernadette de Gustave ?
Oui, je suis mariée maintenant. Je sais, qu'avez-vous à l'œil ?
Elle hausse ses épaules.
C'est votre mari. Dans cette région, les hommes sont brutaux. Il ne faut pas vous laisser faire. Vous avez des droits, vous savez.
Si, monsieur l'instituteur, je dois partir. Pensez à ce que je vous ai dit. La loi est là pour vous défendre. Vous êtes un être humain. Si vous avez besoin d'aide, je suis à votre disposition. Venez me voir quand vous voulez.
Oui, merci.
Et elle se sauve.
Durant le trajet, elle pense à ce qu'il vient de lui dire. Mais la haine, la vengeance ont pris une trop grande place dans son cœur.
Soir, ils sont dans la salle commune, près de la cuisinière à charbon. Elle entend le père dire au fils.
Pour moi, il n'y a qu'une personne qui compte, c'est toi. Je crois que tu es la seule personne que j'aime vraiment. Heureusement que les pères partent avant les fils, parce que je n'aurais pas le courage de supporter ton départ.
Pourquoi parles-tu comme cela?
Parce que nous nous sommes chamaillés tous les deux. Alors, je ne veux pas que tu croies que je t'aime pas. Je partage tout avec toi, même ce qui ne se partage pas. Ne l'oublie surtout pas. Ne l'oublie surtout pas.
Un jour, elle s'aperçoit qu'elle n'a plus ses règles. Elle sait ce que cela veut dire. Elle va prévenir Toine, qui est assis à côté de la cuisinière, à fumer la pipe.
Oui.
J'ai quelque chose d'important à te dire. Tu m'écoutes? Voilà, je suis enceinte. Il hausse les épaules et dit.
C'est à moi que tu dis ça? Tu es enceinte de qui? Tu vois, tu ne le sais même pas.
Il se lève.
Hop, n'accouche pas dans la maison. Si tu veux, tu peux accoucher dans la porcherie.
Et il sort de la pièce. Bernadette, humiliée, sent qu'elle n'en peut plus.
Non. Qu'elle porte, elle ne sait pas s'il est du père ou du fils. Mais est-ce de sa faute? Ben, le fils, le voilà qui vient. Ah, celui-là, c'est lui qui m'a violé. Et c'est l'être le plus cher de Toine. Il arrive vers elle avec le sourire et veut lui mettre la main aux fesses. Elle se dégage et lui court après. Pute ! J'en ai assez ! Il se court après dans la pièce. Salope ! Il l'attrape. Plaque entre lui et la table. Avec ses mains, elle cherche un couteau qui est sur la table. Un couteau de boucher. Pendant qu'il essaye de l'embrasser, un coup sec dans la poitrine. Il tombe à la renverse. Couteau dans le ventre. Se penche. Bouge pas, les yeux fixes, la tête grimaçante. Elle n'aurait jamais cru que le couteau ait pu être enfoncé aussi profondément. Elle réfléchit une seconde, se lève. Marche. Dès lui vient à l'esprit. Tu sais même pas de qui tu es enceinte, salope. Le père revient. Il entre dans la salle commune. Sois à table. Bernadette lui prend son assiette. Ouvre le couvercle de la casserole. Mets dans l'assiette une bonne part de viande en sauce. Sent bon, c'est de la bonne viande à la sauce au vin. Toine commence à manger.
Chou, mais c'est bon. Tu ne manges pas?
Non, je n'ai pas faim.
Tu as raison, ça fait des économies de ne pas manger.
Elle le regarde debout manger. Oh, qu'il ait fini de manger.
Mais où est Edmond?
Elle sourit. Il est en toi.
Comment?
Elle sourit. Entre son assiette. Toinerie.
Farceuse.
Viens voir si tu ne me crois pas.
Qu'est-ce que cette histoire?
Il se lève. Mène vers le placard. Ouvre. Ah, avec horreur, debout, le corps ensanglanté d'Edmond. Elle lui montre un coin déchiqueté de la poitrine. Tu as mangé ça? Il pousse un cri. S'appuie le ventre, se met à genoux. Va vers la table. Le couteau qui a servi à tuer Edmond, elle le lui lance. Tiens, accouche. Au moins tu es sûr de qui? Il le prend, garde et se l'enfonce dans le ventre. Elle pousse un grand cri.
Dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Accouche. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.